Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous voici donc dans les arènes de l'écologie pour l'émission du 5 février. C'est un sujet un peu particulier. On va traiter du forum des associations qu'on a baptisé l'écolomythique pour faire se rencontrer auditeurs et puis associatifs. On a une belle brochette de représentants d'associations, toutes de France Nature en environnement Île-de-France. Alors, on va voir pour commencer Nicolas et Patricia de Forum et Projet de l'association Bloucle de la Seine. Alors, ils sont dans les Yvelines, à Chatou, Croisy-sur-Seine, Montesson et Le Vésinet. Alors, ils font plein de choses. Bon, ils vous raconteront, je ne vais pas dévoiler tout. Ensuite, on ira toujours dans les Yvelines, mais un peu plus au nord, avec Christophe pour Nature au cœur. Alors lui, il vous parlera de son jardin pas secret, justement. Il veut le rendre de plus en plus public, mais c'est un beau jardin, comme dirait Jacques Prévert, je crois. Et donc, il vous parlera de toutes les richesses qu'il a découvertes derrière son tas de bois. Entre les fleurs, les broussailles, il a découvert énormément de richesses. Ensuite, on passera de l'autre côté de la région, la partie est. Donc, on ira du côté de Créteil, dans le Val-de-Marne, avec Luc Abadi, qui représente Nature et Société, association qui a déjà 50 ans et qui est très active dans tous les projets d'éducation à la nature, les inventeurs biodiversité. Je crois qu'il passe son temps à regarder les oiseaux et puis il y a plein d'autres choses. Et enfin, on verra du côté de Fontainebleau. Alors là, on ira directement en Seine-et-Marne avec notre ami dont j'ai perdu la fiche, mais qui Guillaume La Règle. Voilà, alors il nous parlera de l'association des naturalistes de la vallée du Loing et du massif de Fontainebleau. Alors c'est pareil, c'est des grands naturalistes, mais aussi des grands communicants qui invitent les gens à se promener. Donc si vous ne savez pas quoi faire, je crois que restez jusqu'à la fin de l'émission. Guillaume vous présentera tout son programme et vous donnera bien des bonnes raisons d'aller vous balader en forêt et le long des berges du Loing. Bon, écoutez, la semaine a été, un peu calme. Qu'est-ce que t'en penses, Ben ? On a vu mieux quand même. Hein ?
Oui, il y a eu quand même des bonnes nouvelles. Il y a eu quand même des bonnes nouvelles, notamment, je crois que c'est à Nice. C'est à Nice. Non, tu te rappelles plus?
Oui.
Ah, voilà. Nous avons perdu les papiers. C'est pour ça. Alors, le maire de la ville a signé un arrêté visant à interdire tous ces navires de 900 passagers qui ne sont plus les bienvenus. Ça commence déjà à Venise, mais là, à Nice, on est en train de faire la même chose. C'est important, c'est important. Pourquoi Nice? Ah. Alors là, je vous renvoie à de prochaines émissions sur les questions des mers et des océans. Il va y avoir une conférence des Nations Unies sur ce sujet en juin, et ça sera à Nice. Voilà. Voilà pour les dernières nouvelles.
Oui, on ne peut pas avoir les Jeux Olympiques tous les ans, donc on aura une grande conférence internationale à Nice. Mais que fait notre ministre? C'est pour ça que je voulais vous donner des petites nouvelles de l'hôtel de Roquelaure. Alors l'hôtel de Roquelaure, vous savez tous que c'est la maison du ministère de l'écologie. Non. Bon, moi, quand j'ai commencé, c'était rue de la Pompe. Mais bon, maintenant, c'est à côté de l'Assemblée nationale. Donc, c'est là que travaille Madame Agnès Pannier-Runacher, dont on sait qu'elle est ministre de l'écologie. Mais bon, ce que ne dit plus son titre. Bon, ceci étant, j'avais cru qu'elle était ministre de la mer. Elle a commencé par 2 semaines pratiquement en immersion totale. Mais cette semaine, elle a quand même pas trop mal réagi. On l'a vu quand même se battre pour défendre les agences de l'écologie, pour faire simple, l'ADEME et autres, contre effectivement les montées, les attaques qui commencent à poindre un peu de tous les côtés. On vous parlait du backlash aux USA, mais en France, ça menace. Donc, Madame la ministre, elle a quand même pas trop mal débrouillé. On l'avait interpellée il y a 15 jours pour lui dire c'est bien le sommet de l'intelligence artificielle, mais au lieu d'aller à la plage, est-ce que vous auriez pas pu nous faire un sujet sur l'empreinte de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas si elle nous a écoutés, mais en tout cas, elle lance un forum. Si, elle nous a écoutés, et elle a réagi extrêmement vite. Donc, le 11 février, il y aura donc un colloque, un forum sur la question de la durabilité de l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de bien de se sentir entendu comme ça. Bon, alors, par contre, lundi, elle était à Bruxelles. Effectivement, il y a quand même pas mal de sujets à traiter. Mais bon, elle n'a pas pu s'en empêcher. Mardi, c'est reparti pour la mer avec une conférence navale, l'ouverture de la conférence navale de Paris. Ensuite, on a eu droit aussi sur la mer, on a eu d'autres choses. Bon, je vais arrêter la blague. Elle voit l'Association française des parcs zoologiques. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais c'est assez scolaire cette semaine. Vendredi, elle va rencontrer des ONG, des associations environnementales sur l'année de la mer. Peut-être que c'est en prévision de Nice. Je crois que les agendas sont bien ficelés. Bon. Tout ça pour vous dire que du côté du ministère, ça avance un petit peu, oui. Mais en tout cas, pour ce qui est d'avancer sur le terrain, on va revenir à nos associations, puisqu'elles sont là, parce qu'elles font beaucoup de choses depuis bien longtemps. D'ailleurs, j'étais extrêmement surpris quand j'ai pris contact avec FNE Île-de-France, avec Michaël Denis. J'ai encore failli faire l'inverse, les prénoms, je ne suis pas très doué, mais bon, Michaël Denis, qui m'a dit qu'il y avait 400 associations en Île-de-France, 400 associations écologistes, pas les plus braillardes, vous ne faites pas de manif, ce n'est pas votre truc, si ça arrive. Michael, on va te laisser tu vas prendre te saisir d'un micro, parce que là les places sont chères, mais il faut. Voilà.
Oui, ça peut arriver qu'on fasse des manifs. Effectivement, c'est pas le mode d'action préféré, principal en tout cas. On essaie d'avoir des actions progressives, on fait beaucoup de sensibilisation, on porte les messages du réseau, donc de toutes les assos de terrain. L'axe un petit peu différenciant de France Nature Environnement, c'est aussi l'axe juridique. Et le juridique et la manif, on le garde en cas de dernier recours, un petit peu, quand c'est le dernier rempart.
Ok, alors dis-nous, Michael, depuis quand ça existe FNE? Et puis combien, alors pour faire simple, combien d'adhérents il y a en Ile-de-France de gens qui mouillent le maillot pour l'écologie, quoi?
Alors, France Nature Environnement, au national, ça existe depuis 1968. Donc, c'est la fédération des assos de protection de la nature et de l'environnement. En Ile-de-France, ça a été créé en 1974. Donc, on a fêté les 50 ans l'année dernière. Et à l'échelle nationale, c'est plus de 6000 assos fédérés. Et donc, en Ile-de-France, comme tu le disais, c'est 400 organisations sur toutes les thématiques, sur tous les territoires. Rassemblés sous la bannière.
Et donc, ça représente combien d'adhérents à peu près
À peu près 40 000 personnes en tout.
Okay. Et si je veux adhérer?
Ah, vas-y, Ben.
Et si je veux adhérer, je fais comment?
Alors, adhérer à...
Il faut déjà choisir.
Il faut être une asso. Pour adhérer à titre individuel, c'est en adhérant via une asso du réseau.
D'accord. Voilà. D'où l'intérêt de cette rencontre. Il faut commencer à rencontrer une association, donc l'écolomitique. J'espère que ça va fonctionner parce que, tout cas, il y a un vrai besoin, quoi.
C'est ça. Donc, sur notre site, il y a la carte de toutes les assos classées par thématique pour pouvoir trouver celle proche de chez soi.
D'accord.
Mais ce soir, on va faire le zoom sur quatre d'entre elles.
D'accord. Effectivement, on l'a mis cette.
Les quatre sont.
Alors, celle que j'ai citée tout à l'heure. Et donc on va commencer par. On va commencer par Forum et Projet, de la boucle ou des boucles. Allez, dis-nous tout, Nicolas, parce que moi je m'y perds.
Alors nous, on est sur les boucles de Seine et on est localisé. On travaille sur les villes de Chatou, Montesson, Le Vésinet et Croissy-sur-Seine. Un peu plus largement, on fait des interventions sur Saint-Germain et puis aussi les Hauts-de-Seine, mais vraiment notre territoire, c'est ces villes-là.
D'accord, donc vous êtes une association presque fluviale, quoi. C'est,
voilà.
Vous êtes dans le méandre, vous en sortez, vous grimpez de temps en temps sur le plateau ou...
Oui, des fois on va à Saint-Germain et puis on traverse la Seine, on va à Rueil.
C'est génial. Bon, alors vous faites quoi sans...
Alors en fait, on a deux axes, deux activités principales. C'est premièrement sensibiliser le maximum de personnes sur l'écologie, l'environnement. Et l'objectif, c'est vraiment de les mettre en action, c'est-à-dire au-delà de la sensibilité, les mettre en mouvement. Et puis on a un deuxième axe, c'est accompagner les gens qui veulent monter des projets sur la mobilité, sur la réduction des déchets. On travaille aussi en réseau avec des partenaires, dont les villes. Et donc ça leur permet d'avoir une base pour pouvoir développer leur projet et pas partir de zéro. Et donc derrière, on a des bénévoles, on a plus de 250 bénévoles qu'on arrive à mobiliser. Et donc les bénévoles, en fonction de l'intérêt et des différentes thématiques que je pourrais détailler, ils se prononcent et ils s'investissent dans un projet.
Alors tu peux nous... Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement, la dernière activité de la semaine ou du mois, depuis le début de l'année, qu'est-ce que vous avez pu faire ? C'est vrai qu'il ne fait pas très beau.
Alors, cette année, il n'y a eu qu'un mois, donc il n'y a pas eu grand-chose de fait. Alors, on a quatre piliers, en fait, et un des piliers, c'est la préservation des ressources. Et on fait des Ripper Café, et on en a fait un ce week-end.
Ripper Café.
Donc, en fait, on a une salle, on a des bénévoles qui sont des réparateurs. Et donc sur plusieurs ateliers, ça peut être de l'électroménager, de l'électronique, ça peut être de la couture, de la petite bijouterie.
C'est de la réparation café.
Et donc on apprend aux gens de comment réparer, on les conseille de façon à éviter de jeter les appareils qui ne pourraient pas utiliser s'ils n'avaient pas de LED. Mais c'est vraiment de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'ils restent avec nous, on leur explique s'il faut acheter des pièces détachées, ils vont acheter les pièces détachées. Il y a l'UVélo aussi, les réparations de vélo. Mais voilà, on ne se substitue pas aux réparateurs, qui sont de moins en moins nombreux d'ailleurs, mais on apprend aux gens à se responsabiliser, à comprendre comment ils peuvent transformer un objet qui n'est plus utilisable et le réutiliser, quoi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous réparez le plus ?
Il y a beaucoup d'électroménager, les vélos aussi. Après, ça dépend des journées, mais tout ce que j'ai dit, du raccommodage, il y a du réaccommodage.
Donc là, c'est la lutte contre la prolifération des déchets.
Exactement.
Comment dire, le... Ah zut, obsolescence.
L'obsolescence programmée.
Voilà, l'obsolescence
donc programmée. Donc le réemploi, et à chaque fois, on pèse ce qu'on a réparé pour dire, voilà, on a...
Alors, vous avez pesé combien en 2024
j'ai pas le dernier chiffre, mais... j'ai pas le dernier chiffre, je suis désolé.
Bon, on traitera la question des déchets dans un certain temps. Je crois que c'était programmé pour le 26 mars. Mais bon, à part les déchets, vous faites quoi ?
Alors, on a toute une partie pour apprendre et permettre aux gens de comprendre les enjeux écologiques. Donc, on a cette année, du 17 mars au 23 mars, on a la 7e édition du film de l'environnement, qui aura lieu à Chatou, au pied du RER A. Donc, c'est à 20 minutes du centre de Paris, donc c'est accessible par tout le monde. Et donc, il y aura 13 projections. Avec sur des différentes thématiques, la préservation de la déforestation, la préservation des fonds marins, l'océan d'une façon générale,
Vous vous visez Nice également, vous savez.
Non, mais cette année, c'est beaucoup axé sur l'océan. Puis on fait participer les scolaires aussi, puisqu'il y a les écoles viennent, et dont une primaire, dont le projet de l'année, c'est les océans. Donc ils s'investissent. Et puis la particularité, c'est qu'il y a toujours un parrain conférencier. Donc on a reçu Camille Etienne, Jean-Louis Etienne, Nicolas Vanier. Et cette année, c'est Mathieu Baudin, qui est un historien et projectiviste, et qui va nous parler de l'art d'imaginer les futurs. Donc c'est une conférence interactive. Et donc voilà, dans cette atmosphère qui n'est pas toujours très, un peu trouble, ça va permettre aux gens un peu de rêver. Et on va rebondir là-dessus pour mettre en place 15 jours après un grand atelier avec plus de 200 personnes sur 5 civils, et avec un atelier qui s'appelle Voyage en 2030 glorieuse, qui a été créé et qu'on va faire en partenariat avec Julien Vidal. Julien Vidal, c'est un podcasteur qui a commencé il y a quelques années sur un podcast qui s'appelle Ça commence par moi. Donc qui a expliqué voilà ce qu'il faisait au quotidien, et l'idée c'était de dire ok, l'écologie c'est bien, mais qu'est-ce que moi je peux faire. Et donc voilà, il a développé ses activités dans cet atelier qui dure deux heures, et on fait voyager les gens en 2030, on les fait se transporter et voir un petit peu comment ils verraient le futur pour se projeter.
D'accord, donc c'est pas forcément de la dystopie, c'est pas forcément triste.
Non, justement, au contraire, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils verraient le monde de demain si ils avaient une baguette magique et qui était en 2030.
D'accord. Donc comment c'est pas une série scandinave, quoi,
non,
qui nous fait bien pleurer,
tout.
Quoi.
Voilà. Ah, bon. Donc en fait, c'est l'étape de 8, donc il y a une émulsion, et chacun dit, et partage.
D'accord. Donc c'est le festival de Cannes écologique, mais avec de l'action, quoi.
Après, ouais, 15 jours après, pour permettre aux gens de réserver, et puis de venir. Et il y a plus de 200 places. Donc on va faire un...
D'accord, mais... Pour une fois, c'est complet. On peut encore s'inscrire.
Ah ben, vous pouvez aller sur le site, hein, toutes les
alors,
informations.
Donne-nous le site exactement.
Alors, le site, c'est www.projet.
Projet.
Singulier.
Singulier. Non, pardon. Je suis désolé. Je me suis trompé. Ça commence. Forum, pardon.
Ah, forum.
Donc, c'est www.forumprojet, collé.
Ah ouais, donc il n'y a pas de point entre forum
non.
Et projet.
Mais avec un S le projet, parce qu'on en a plusieurs.
D'accord.
DD comme développement durable. .org. Voilà, vous allez dans les événements, et vous avez tous les événements dont les Ripper Café. On fait de l'ornithologie aussi, des sorties ornithologiques.
D'accord. Vous apprenez aux oiseaux à réparer les nichoirs. C'est ça le truc.
Ouais, on cherche des bénévoles parmi les oiseaux.
Il y a un sacré concept là.
On fait des fresques aussi, des fresques sur les limites planétaires, la fresque de la biodiversité, la fresque du climat, la fresque de l'océan, la fresque des déchets.
Qu'est-ce que ça veut dire ça, les fresques ? Faut que je me mette à la page. Moi.
Alors les fresques, c'est un concept qui a été créé par Cédric Riegenbach sur le climat, et qu'en fait il a pris les rapports du GIEC, et devant les étudiants, en fait, parce que les étudiants ne comprenaient pas ce que c'était le changement climatique. Et il a pris des extraits, des graphiques, et il les a mis ensuite de cause à la conséquence. Et en D'accord. fait, ça permet d'avoir une vision globale du changement, comment les choses s'enchaînent, et comment le changement climatique se crée, et quelles sont les conséquences après en termes d'immersion, de chaleur, et ainsi de suite. D'accord. Et après, ce concept qui est très pédagogique, hein, parce qu'en 3 heures, ça permet de comprendre beaucoup de choses, ce qui n'est pas possible, hein, de lire le rapport en 3 heures. Après, il y a eu des extensions sur d'autres thématiques, la biodiversité, l'océan.
D'accord.
Les limites planétaires
qu'on fait aussi.
Donc, grosso modo,
les nouveaux récits aussi.
C'est mettre en récit, en chaîne, des sujets un peu compliqués pour plus facilement les faire comprendre.
Et en fait, c'est les gens, c'est les personnes qui créent la fresque et qui vont réfléchir en collectif.
J'aille voir ça, oui. Parce que. Ok, alors je sais plus où on en est dans notre conducteur, je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai raté la musique, je vais la lancer. Puis j'en profitais pour remercier dès maintenant Armand Gury, Damien Gissa, Matin Jalali et CFRM Famille, parce que généralement je les oublie à la fin, comme on ne manage pas encore très bien le timing. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. En tout cas, ils sont tous là, ils nous aident bien, ils vont lancer la musique. Voilà, c'est pas moi qui appuie sur le bouton.
Del cielo cae agua. Lluvia poderosa. Del cielo cae agua.
Bien, nous voilà revenus dans les arènes et avec un nouveau gladiateur en la personne de Christophe qui représente Nature au cœur également dans les Yvelines qui fait, si j'ai bien compris, qui est une association qui organise des actions pédagogiques dans les jardins ou dans le jardin. Bon ben Christophe, tu vas m'expliquer parce que je n'ai pas pu tout retenir.
Alors l'association, bonsoir, l'association c'est La Nature au cœur. Déjà pour plus nous retrouver sur les réseaux ou sur le site. La première chose que je voulais dire, c'est que à quel point des organismes comme la FNE sont importants. Quand j'ai monté mon asso, il y a relativement peu de temps, et à un moment je me suis dit, c'est bien, je me suis rendu compte que plein de gens faisaient des choses dans leur coin et qu'en fait on manquait de se rassembler. Et c'est bien ensemble qu'on est plus fort. Et donc assez rapidement, j'ai voulu trouver comme ça un organisme qui nous fédère et qui nous rassemble.
C'est toi qui as créé l'association?
Oui.
Alors ça t'est, quand ça, et ça t'est venu comment l'idée? Pourquoi? Il n'y avait rien à la télé qui te plaisait?
Alors moi j'ai toujours, depuis tout gamin en fait, j'ai toujours été sensible à l'environnement et à la nature. Donc ça date pas d'hier, je ne suis plus un gamin. Donc voilà, j'ai toujours été sensible à ça. J'ai toujours habité à la campagne. Et puis après, la profession m'a un peu...
Alors tu fais quoi comme métier?
Je suis photographe.
D'accord.
Je suis photographe, donc un boulot qui m'a demandé, enfin qui me prend beaucoup de temps. Donc j'ai jamais perdu ce côté environnemental. Je suis parti de Seine-et-Marne où j'habitais quand j'étais enfant pour m'installer donc dans les Yvelines. Et puis d'abord en tant que photographe, j'ai monté un projet qui s'appelle Les Beautés de Proximité. Sur la biodiversité végétale.
Les quoi? Les?
Les beautés de proximité.
Ah, les beautés de proximité.
Alors, c'est pas tellement dans le sujet, mais pour dire comment je suis venu à l'asso, c'est que j'ai monté ce projet, qui est un projet photographique sur l'idée de se dire que... Parce qu'en fait, tout est lié. L'idée de se dire qu'en fait, tout près de nous, il y a des choses très très belles auxquelles on ne fait plus très attention. Et c'est venu d'un truc tout bête, c'est qu'un matin, avec une petite gelée, un peu comme en ce moment, donc c'était, je crois, avant cette histoire de Covid, donc 2018, je crois, je repère une pâquerette dans ma pelouse en allant nourrir mes poules dans mon potager, et prise dans le gel. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai dit, tiens...
C'est tombé amoureux de la pâquerette.
Je me suis approché, j'ai dit, en fait, c'est hyper joli, quoi. Enfin, ces petits cristaux de gel pris dans la pâquerette. Donc, je suis allé chercher un boîtier, un appareil photo, j'ai fait une première photo. J'en ai fait comme ça, plusieurs, enfin plein, et puis je ne savais pas quoi en faire. J'ai rencontré des éditeurs qui m'ont tous dit « le marché des beaux livres s'est plié, donc n'y pense pas ». Donc j'accumulais mes images, sans, encore une fois, sans trop savoir qu'en faire. Et puis le hasard de mon métier a fait que j'ai rencontré des gens engagés Lucie Lucas, qui est comédienne sur TF1, et, notamment, qui fait plein de choses, qui est très très engagée, ou Fanny Agostini, qui à l'époque présentait Thalassa, qui à l'époque présentait Faut pas rêver, et qui maintenant a monté une fondation, Landestini, avec son mari, qui était l'ancien directeur.
Oula.
Tu parles de...
on va raccourcir.
Ouais, enfin, voilà. Donc en tout cas, je fais ces photos, je monte ce projet, parrainé par Pierre Rabhi notamment, d'ailleurs, qui m'écrit un joli petit mot sur mes images. Donc je monte ce projet, et puis en fait, j'avais besoin de me réinvestir. Entouré de tous ces gens très investis autour de moi, je voulais me réinvestir. Et le maire de mon village m'a dit, mais on a un terrain là.
Oh, il s'appelle comment ton village ?
Gaillon-sur-Moncian, qui se trouve près de Melun-en-Yvelines. Donc c'est pas dans l'Eure, c'est le Gaillon qui est plus près de nous.
Oui.
Et peut-être il y a des choses à faire. Et effectivement, il y avait un terrain communal sans destination.
Donc c'est l'ouest des Yvelines quand même.
On est près du 95. On est vraiment la dernière commune. On est dans le Vexin, dans le parc naturel régional du Vexin. Et on est la dernière ou première commune en fait des Yvelines. Après, c'est le Val d'Oise. Et il me dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce terrain si tu veux. Donc, mais pour que la commune puisse t'aider et passer une convention avec toi, faut que tu aies une structure. Donc en fait, ça m'a un peu poussé au bord du gouffre pour que je monte une structure, effectivement, et que je commence à m'occuper de ce terrain en disant je ne veux pas un parc, et j'aimerais bien un truc où les gens puissent apprendre des choses. Donc on a décidé avec le maire, qui a validé l'idée, qu'on...
Il t'a donné un terrain vague.
Il m'a dit fais ce que tu veux, je te fais confiance.
Alors il y a combien d'hectares?
C'est pas très grand, ça fait 800 mètres carrés, je crois.
800 mètres carrés, oui.
Et l'idée, c'est ça a été...
10e d'hectare.
Au plein cœur du village, en revanche. Et donc l'idée m'est venue de développer, parce que c'est assez riche, il y a un petit cours d'eau, il y a pas mal de choses. C'est au milieu de plein d'autres jardins qui sont ou des potagers ou des vergers, enfin un gros espace vert non traité. Et je me suis dit, tiens, si on faisait un jardin pédagogique. Donc c'est devenu un jardin pédagogique naturel maintenant, qui s'appelle l'éco-refuge de la Douai. La Douai étant le petit rue qui traverse le jardin.
Waouh. Le rue, donc un petit ruisseau pour faire...
Ouais, vraiment, c'est vraiment... Oui, après, il se jette dans la Moncian, qui se jette dans la Seine, qui, voilà, après, on connaît le chemin. Et donc, c'est devenu un jardin pédagogique naturel, ouvert à tous en permanence, avec cette idée de se dire... Je me disais, c'est très bien de s'investir dans la défense des ours polaires en Antarctique, et c'est canon, c'est très bien qu'il y ait des gens qui fassent ça.
Tu préfères les ours polaires à Gaillon?
En revanche, il y a près, dans nos jardins, des abeilles en difficulté, des hérissons en difficulté, et il y a aussi des choses à faire là, tout près de chez nous. Donc c'est super qu'il y ait effectivement des grosses assos nationales qui s'occupent des choses à l'autre bout du monde. Mais on peut aussi faire des petites choses près de chez nous. Donc dans le jardin pédagogique, j'ai mis en place des petites solutions toutes simples, comme installer des tas de bois, comme faire des abris à hérissons, voilà, il y a installer des trames vertes. Les trames vertes, ce sont des passages entre les différentes propriétés pour que les animaux puissent passer de l'une à l'autre, replanter une haie. Tout ça, c'est des choses très simples pour favoriser la biodiversité et l'aider. Et toutes ces choses-là que j'ai mises en place au sein de l'éco-refuge de la Douai, en fait, nous avons fait des petits panneaux pédagogiques pour expliquer aux gens, aux visiteurs, comment refaire la même chose chez eux et en quoi c'est important de faire un muret de pierre sèche ou un tas de bois. Ça paraît tout bête, mais c'est extrêmement important. Et donc
grosso modo, c'est reproductible pour
le kidam. Pour n'importe
qui a un jardin, au lieu de mettre la pelouse,
ou un balcon,
tondre la pelouse en fait, les week-ends.
On considère qu'il faut laisser environ un tiers de sa parcelle se réensauvager pour que ça ait un réel impact. Et le réel impact, c'est les insectes qui vont venir, du coup les oiseaux qui vont venir pour manger les insectes pollinisateurs qui vont œuvrer sur les jardins voisins. Voilà, donc depuis j'œuvre, en fait cet éco-refuge m'a servi un peu de brouillon pour maintenant chercher à les développer chez les particuliers, dans les écoles. On en a développé un dans une école d'éco-refuge, dans un petit coin qu'on a laissé sauvage. L'idée, c'est vraiment ça.
Alors, il y a quelques jours, ou une semaine ou deux, je ne sais plus, il y avait justement l'opération du muséum pour compter les oiseaux. L'as-tu fait ?
En lien avec la LPO, d'ailleurs.
La LPO, oui, peut-être. Ouais. Et l'as-tu fait ? Combien en as-tu vu ?
Alors, cette année, je ne l'ai pas fait. C'est un truc bête, mais en fait, je le fais souvent. Alors, soit je l'organise avec l'asso et avec les gens qui veulent venir compter, soit je le fais sur mon balcon, enfin, dans mon jardin.
Au chaud, quoi.
Au chaud, plutôt. Il faisait très froid, en plus, là. Et y avait, bizarrement, j'ai vu qu'il y avait peu d'oiseaux cette année, qui étaient même sur les mangeoires, que j'ai installées très tard, parce qu'ils n'avaient pas besoin de nous jusque maintenant. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas tellement d'oiseaux. Depuis, ils sont un peu rattrapés. Il y a beaucoup de mésanges, en l'occurrence. Petite information, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mésanges bleus et charbonnières cette année. Mais,
voilà. Bon.
Aligre FM
93.1.
Ok, alors vous êtes combien dans l'association ?
Alors l'association, franchement, c'est surtout moi, en fait. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avant.
Ta femme, ton fils, voilà, ta mère et ton...
En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. On s'aperçoit. Alors d'abord, moi, j'ai un naturel un peu indépendant.
Enfin, bon.
Et après, on s'aperçoit aussi que c'est quand même assez difficile de fédérer les gens. Enfin, je sais pas, ça pourrait être un débat, mais d'abord, c'est assez difficile que les gens financent ou participent au financement d'une association. Et en fait, c'est très bête, mais juste s'assurer tous les mois, on est obligé, c'est déjà 40 euros. Un site internet...
Par mois, oui.
Un site internet que j'ai mis en place, c'est tout de suite, même s'il m'a fait un prix 250 ou 300 euros. J'ai une boîte à livres dans l'éco-refuge que je fournis en bouquin. Ben, je les achète, même si je les achète chez Recycle Livre, qui est déjà un truc de recyclage de bouquins pas cher et qui œuvre aussi pour la réinsertion.
Bon, là, tu étais en train de soulever un sujet dont on a parlé en aparté avant l'émission, la question du financement,
la question du financement et même
mais on va essayer de se garder 5 minutes pour la fin de l'émission pour en parler rapidement. Voilà.
Et même, donc, même du coup, pour concerner les gens, c'est pas si simple d'aller choper les gens pour qu'ils viennent aider. Ils trouvent l'idée
et
super.
Et ta boulangère, elle vient de temps en temps
Alors, dans l'éco-refuge, en revanche, les gens adorent profiter du lieu. C'est-à-dire que vraiment, il y a des passages, il y a plein d'avis sur Google Maps qui se mettent de gens que je ne connais pas, des gens qui leur perdent, qui viennent visiter. Donc, ça séduit complètement. En revanche, pour que les gens participent, c'est vraiment difficile d'aller les séduire et d'aller solliciter un coup de main de temps en temps.
Inventer quelque chose, je crois qu'on pourrait... Bon, faut trouver des idées.
Ouais.
Bon, ceci étant, t'es quand même avec la photo aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça marche. Souvent, on rentre par la photo,
ça marche.
L'image en tout cas.
Ça marche, j'ai envie de dire, il y a plein de... Donc, moi, j'essaie de sensibiliser à la protection de la biodiversité de proximité. Et en fait, il y a cet éco-refuge, mais il y a un moment, je me suis dit, bon, je suis photographe, il y a un truc à faire avec l'image. Je me voyais difficilement exposer mes propres photos dans un lieu que je gère, dans mon village. Bon, ça me gênait un peu aux entournures.
La nature et moi, quoi.
C'est ça, ça me gênait un petit peu. Et en fait, il se trouve que le parc du Vexin, pour dire encore une fois que tout est lié, les rencontres sont importantes, m'a demandé de faire partie de leur jury, ils ont un concours photo tous les ans. Et en fait, là, j'ai vu des photographes, pro ou amateurs, qui travaillaient sur la biodiversité. Et du coup, c'est la cinquième saison qu'on a mis en place la nature du Vexin par ses talents photographiques, avec l'idée d'exposer des très grands tirages en extérieur à l'éco-refuge, mais aussi ailleurs, sur la biodiversité de proximité. L'idée étant pour moi que les gens se disent, et de temps en temps je le vois quand j'y suis, « Ah mais c'est dingue, il y a des lézards verts dans notre coin, il y a tel animal, mais il y a du blaireau vraiment. » Voilà, donc c'est que des talents locaux qui ont travaillé sur le territoire, avec cette même idée que les gens se disent « On est dans un territoire, il y a beaucoup de choses autour de nous, on veut les protéger et on peut les protéger d'une façon simple et ludique. »
Ok Christophe, oui, bon, écoute, c'est passionnant. Est-ce que tu as une date à nous donner à tous nos auditeurs qui vont venir envahir ton jardin Est-ce qu'on peut trouver un moment clé comme Nicolas l'a fait tout à l'heure?
Alors,
est-ce que toi, tu as un rendez-vous à donner?
Ben, en général, tous les ans, dans le cadre de la Fête de la Nature, j'essaye d'organiser un rendez-vous ponctuel, soit une expo justement, soit une visite du lieu.
D'accord. Alors, la Fête de la Nature, de mémoire, c'est le 21 au 25 mai.
Ouais, ça change des fois, ouais.
Non, alors, il se trouve... Comment?
21-25, ouais.
Voilà.
Et donc j'essaye de caler un rendez-vous donc, sur les réseaux sociaux, de l'annoncer, que je suis là, ou que des photographes qui exposent viennent aussi pour parler de leurs images. Le lieu est ouvert en permanence. On peut aussi nous contacter facilement par l'adresse mail lanatureaucoeur@gmail.com. Et puis fixer des rendez-vous. Si je suis là, c'est avec plaisir que je fais visiter. Mais sinon, c'est ouvert au public en permanence. C'est un peu, évidemment, plus pauvre là en espèces végétales et en insectes pour le moment. Mais il y a quand même une expo en place. Il y a quand même des choses à y voir.
D'accord.
Tout le
bon.
Temps.
Écoute, faudrait qu'on... Effectivement, les photographes qui sortent de... qui s'expose dans la rue, je trouve ça formidable. Il y a une super exposition en ce moment du côté du Mont-Souris sur... alors, c'est pas la nature, hein, mais on n'est pas sectaire. C'est sur les professions médicales. J'étais très impressionné l'autre jour en passant devant, en retournant à mon RER préféré. Bon, petite blague à part... bah écoute Christophe, on a bien noté tout ça, et puis maintenant on va passer à ton collègue. Alors c'est Luc Abadie, c'est ça Oui, c'est ça, Luc Abadie de Nature et Société, Maison de la Nature à Créteil dans le 94, dans le Val-de-Marne. Bon, bah écoute, Luc, on te laisse nous expliquer ce que vous faites, qui vous êtes, de quoi vous avez besoin.
Oh là, beaucoup de choses. Alors, qui on est ? Bah, on est une association qui a, dans quelques semaines, 50 ans d'existence, quand même, mine de rien.
Ah.
Donc, une association, on va dire, rayonnement, quelque part, entre le niveau départemental et le niveau régional. Et donc, effectivement, on est installé à Créteil, plus précisément sur l'île de loisirs de Créteil. Et donc là, on a le lac de Créteil, plus des environnements. Il y a même une zone qui vient d'être reclassée Znief il y a quelques jours.
Alors Znief, on explique.
Bah, c'est une zone protégée d'intérêt pour la faune et la flore, donc zone naturelle. Voilà.
Là où on peut voir des... Donc, grosso modo, il y a des oiseaux migrateurs, généralement.
Il y a des oiseaux qui sont suivis d'ailleurs depuis très longtemps. Donc, cette île de loisirs nous offre évidemment du coup des terrains pour des activités naturalistes vraiment très intéressantes. Et puis effectivement, là aussi, il y a maintenant plus de 20 ans, les autorités... Alors c'est compliqué, hein, l'île de loisirs, c'est la région, la ville, le département. Mais donc il y a une maison de la nature donc qu'on anime depuis plus de 20 ans maintenant. Et qui, donc c'est un local là pour le coup, qui nous permet de monter des ateliers, des expositions, de faire un centre de ressources et ce genre de choses. Donc, l'autre, évidemment, particularité, c'est que on est à Créteil, hein, c'est la préfecture. On est en fait dans la première couronne de l'Île-de-France, donc on est dans la zone dense. Et effectivement, de fait, maintenant, cette île de loisirs, encore une fois, le classement Znief là, vient de le reconnaître officiellement, constitue une zone plus ou moins naturelle, mais d'un très grand intérêt pour la biodiversité.
Mais pourtant,
pour la biodiversité.
C'est ultra-urbain quand même, comme secteur.
C'est complètement... Oui, c'est ultra-urbain.
Où on a construit des immeubles avec des balcons en tête de chou-brousse.
Oui, ça fait beaucoup parler, effectivement. C'est quasiment en face de ces bâtiments. Ça, c'est un peu le côté folklorique de la ville de Créteil, qui, par ailleurs, est très verte. Hein, c'est une ville-jardin, en fait.
C'est une ville-jardin. Alors, quelle densité de population y a ? Tu as une idée ?
Alors, à Créteil, je ne sais pas, mais on ne doit pas être loin des 100 000 habitants, quelque chose comme ça. Oui.
D'accord. Donc, pour quelle surface ?
Ouf, je ne sais pas. Mais de toute façon, le département du Val-de-Marne, c'est plus d'un million d'habitants. Hein, donc, c'est un truc énorme de ce point de vue-là. Donc ça fait une zone de nature, de proximité, donc on essaye de tirer parti de cette situation. Alors après, on s'appelle Nature et Société, donc le programme il est assez clair, parce qu'on essaye effectivement de faire en sorte que la nature, et, bon, évidemment nous on a beaucoup l'entrée biodiversité, bien entendu, mais l'entrée biodiversité qu'on resitue dans la perspective aujourd'hui de ce qu'on appelle la transition écologique, hein, qui me paraît... Alors c'est le nom actuel du ministère, d'ailleurs, le ministère de la transition écologique, qui me paraît tout simplement un enjeu, le enjeu ou un des deux ou trois enjeux majeurs du siècle en cours, tout simplement.
Mais ça veut dire quoi au quotidien pour les habitants de Créteil, du Val-de-Marne? Comment on vous rencontre? Quels services vous proposez? Comment ça fonctionne, quoi?
Alors, on a une équipe de permanents, donc ce qui permet d'avoir des activités sur les horaires normaux, entre guillemets. Donc on propose des activités beaucoup avec les scolaires, par exemple. On envoie des animateurs dans les écoles qui sont partenaires et on peut proposer donc des ateliers naturalistes ou des sorties d'exploration de la nature. Ça peut être dans la rue.
Mais les gens qui viennent, ils savent que c'est une association ou ils se disent « c'est la mairie qui fait ça ».
La mairie nous soutient très bien, d'ailleurs. Elle nous fait régulièrement la pub dans son bulletin. Les choses sont claires.
Ouais.
On est une association indépendante, d'ailleurs. Une preuve, c'est qu'on est monté un peu au créneau là, il n'y a pas longtemps, puisqu'on parlait tout à l'heure, est-ce qu'on fait des manifs ou pas? Alors les manifs, c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup, mais quand il faut monter au créneau sur un dossier spécifique d'environnement, on l'a fait. Là, il y avait un projet sur le lac de Créteil d'installer un système de vagues artificielles pour faire du surf. Qui évidemment risquait quand même d'avoir quelques impacts.
Ça allait faire peur aux canards ou il y a autre chose que les
canards? Ça peut faire peur aux canards, il y a beaucoup de choses d'ailleurs.
Il y a quoi comme oiseaux sur le lac?
Vous avez les oiseaux d'eau classiques qu'on trouve, quelques oiseaux plus rares. Il y a le blongios par exemple, il est présent, donc ça c'est quand même un oiseau assez emblématique.
C'est un petit hiron, si je ne me trompe pas.
Ça, Donc il y a une faune qui est vraiment intéressante. Puis il y a le lac de Créteil en tant que tel. Des choses intéressantes qu'on fait d'ailleurs, en partenariat avec des scientifiques d'ailleurs, sur, sur le plancton, donc, par exemple, des choses comme ça.
Qui donc sont... la nature en ville, ça a du sens, quoi. C'est pas parce qu'on est en ville qu'il n'y a plus de nature, quoi.
Ah ben pas du tout. Enfin, si c'est fait correctement, la ville, elle offre des milieux mosaïques ultra diversifiés, en fait. Parce que vous avez à 2 mètres d'intervalle, une mare, et puis une façade en béton qui est presque les conditions qu'on aurait sur un coteau calcaire, quoi. Si, très chaud, très sec. Donc, s'il y a un minimum d'effort qui est fait, la ville peut accueillir une incroyable diversité d'organismes, et même à la limite constituer en quelque sorte des écosystèmes qui existent nulle part ailleurs, parce que là on mélange des espèces qui normalement ne sont pas mélangées.
T'as pas des guépiers quand même
J'en sais rien, mais ça pourrait arriver, on a des choses bizarres. Non, la ville peut être un milieu très très riche parce qu'elle est hétérogène.
Et est-ce que les habitants de Créteil s'en rendent compte ou est-ce qu'ils... Ils saisissent le... Parce que quand tu es en train de nous décrire des lieux où c'est foisonnant, où il y a plein de choses, il y a une richesse qu'on n'imagine pas. Est-ce qu'on s'en rend compte? Est-ce qu'on le sait?
On n'a pas trop le choix, parce qu'une grande partie du Créteil, en particulier ce qu'on appelle le nouveau Créteil, qui est une ville nouvelle, même si elle n'a pas le statut de ville nouvelle, est en fait une ville verte. C'est une ville-jardin. Vous avez des quartiers qui sont piétons et vous vous baladez dans un parc, en réalité. Alors, c'est une nature sous contrôle et domestiquée, hein, pour l'essentiel. C'est plutôt un vaste parc. Mais donc, les gens vivent dans la nature et ils sont complètement conscients de ça. Et sur la base de loisirs, sur l'île de loisirs, maintenant ça s'appelle comme ça, de Créteil, vous avez un monde fou en permanence. Alors, le week-end, n'en parlons pas. Ce qui peut d'ailleurs éventuellement créer quelques difficultés à faire coexister des zones vraiment naturelles. Il y en a quelques-unes. Et puis, cette fréquentation est énorme. Donc, nous, on est là, et on essaie, du coup, de profiter de cette fréquentation pour donner des occasions aux personnes de venir s'initier à la nature. Mais on fait ça, donc, avec les scolaires, avec les simples citoyens. On fait des choses, on fait des ateliers, par exemple, de cuisine.
Et alors, est-ce que tu as un rendez-vous? Parce que là...
J'ai un rendez-vous, ouais, non, demain.
Pas, par exemple. Dis-nous tout. Quand est-ce qu'on peut te rencontrer?
On a un site web, vous allez sur le site web, et puis il y a tous les contacts qui sont nécessaires.
Et t'en as pas un à nous proposer? Sois un peu vendeur, Luc.
Un contact, tu veux dire...
Je sais pas, il y a un rendez-vous prochain dans les 3 mois, là.
Rendez-vous, alors, qui va pas concerner énormément de monde, et qui est hautement significatif, demain... On fait une séance de formation avec les agents de la ville de Bonneuil, les agents municipaux de la ville de Bonneuil, sur la question du... Alors, l'entrée est carbone, ils ont voulu avoir une entrée carbone, mais ce qu'on fait à Nature et Société, c'est que quand on choisit une entrée, on s'attache à montrer tout le côté systémique. Donc d'accord. Le carbone, on va le traiter à travers notamment la question de la biodiversité, et ces genres de choses.
Ok, et le site internet, là, avant que je lance
Nature
la
et
musique...
Société,
Nature et Société.
Tu tombes dessus directement. Ouais. Voilà.
Bon, de toute façon, avec un petit moteur de recherche.
Et puis là-dessus, vous trouvez. On a des publications aussi. On est en train de boucler un livret sur les milieux naturels du port de Bonneuil, qui est une zone industrielle énorme. Et en fait, il y a une énorme diversité aussi qui est observable. On a fait ça sur les oiseaux du lac de Créteil aussi. On a des petits bouquins qui sont accessibles soit en ligne, soit qui peuvent être achetés.
D'accord, faudra qu'on relaie tout ça. On va essayer de créer notre page internet, hein, Ben. Allez, on envoie la musique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Décider
Eh bien, nous voilà revenus sur Aligre FM dans les arènes de l'écologie. Et pour terminer ce premier tour de table des associations, avant d'entamer, on va se garder quelques minutes à la fin pour parler de différents sujets, notamment cette question de l'engagement et du financement des associations. Mais avant, Guillaume Larègle, naturaliste du Loing et de Fontainebleau. Alors j'ai raccourci j'ai raccourci. Allez, vas-y, on va te laisser la parole. Tu vas corriger toutes les erreurs que j'ai faites. Vas-y, on t'écoute, Guillaume.
Ouais, bonsoir à tous. Effectivement, c'est l'association des naturalistes de la vallée du Loing, du massif de Fontainebleau, et on peut même rajouter des environs. C'est une association qui est très ancienne, hein, 112 ans.
Ah,
créée en 1913.
C'est la plus vieille de la table.
Je suis le doyen, j'ai pas l'air, mais je suis.
Voilà.
C'est une vieille association qui a vu passer pas mal de naturalistes assez connus. C'est une association à deux têtes. Hein. Il y a l'aspect classique, les bénévoles, les adhérents qui proposent pas mal de sorties, de sensibilisation sur la biodiversité. On est vraiment que sur la biodiversité. Et puis il y a une partie salariée aussi, avec des techniciens. On a quand même 6 salariés plus service civique apprenti. Donc on est une petite dizaine quand même.
Ils font quoi, des salariés? Ils encadrent tous les promeneurs?
C'est vrai qu'il y a une séparation. Les bénévoles vont s'occuper plutôt de la partie effectivement sortie grand public. Avec un aspect sensibilisation important. Ils organisent aussi, font venir pas mal de conférenciers. Donc là, il y en a un qui prochainement va venir, le 28 février, François Lasserre, sur les insectes.
D'accord, on va dire à tout ça.
Et puis, des techniciens, il y a le bulletin aussi, qui est souvent rédigé par des bénévoles. C'est un bulletin scientifique sur des faits naturalistes ou des suivis scientifiques naturalistes qui sortent tous les 3 mois. Donc il y en a 4 par an. Et puis la partie des salariés, là, c'est plus des techniciens. En fait, c'est des naturalistes qui vont inventorier, qui vont faire des diagnostics de terrain, des expertises écologiques et qui vont répondre à des missions un petit peu plus techniques.
C'est-à-dire qu'ils vont courir après les salamandres. On est
des naturalistes. Dans ce que tu disais tout à l'heure, c'était tout à fait vrai avec le filet. On se promène avec le filet ou alors la loupe de botaniste ou les jumelles et on recherche. Et
qu'est-ce que vous avez observé récemment? Est-ce qu'il y a eu des vous n'avez pas trouvé de nouvelles espèces?
Ça arrive de temps en temps de trouver des espèces nouvelles quand on fait nos inventaires.
Bon, alors, nouvelles pour le coin, vous n'avez pas trouvé?
Oui, nouvelles pour la région. Alors moi, une fois, ça m'est arrivé de trouver une espèce nouvelle pour la France, mais bon, c'est vraiment un coup de bol. C'était une plante, c'était un Eleocharis, ça parle à personne, c'est des petites cyperacées. Non, mais c'est vrai qu'on arrive encore à trouver des espèces rares en cherchant. Nous, c'est vrai qu'on fait des diagnostics, on travaille vraiment pour des structures variées. On est assez quand même connu, on est assez réputé sur l'aspect naturaliste. Donc, on nous confie aussi des travaux.
Les études d'impact.
Pas les études d'impact, ça, c'est quand même quelque chose qui est réservé peut-être plus au bureau d'études. Hein. Mais nous, on va nous confier, par exemple, ça a été dit tout à l'heure, la réactualisation des ZNIEF, par exemple, les zones naturelles d'intérêt écologique et floristique, faunistique et floristique. Moi, par exemple, je suis animateur Natura 2000 du massif de Fontainebleau. Donc, il faut faire certains suivis scientifiques. Il y a des collègues qui vont travailler sur des études ornithologiques, etc. Et comme on est une association, on a aussi la chance d'avoir le renfort de bénévoles aussi qui vont aider et qui sont des experts. Notre président, M. Ciblet, il est quand même connu pour être un excellent ornithologue à l'échelle nationale, voire plus. Donc on a cet apport.
Il s'appelle comment, monsieur ?
Jean-Philippe Ciblet.
Ciblet.
notre président. Donc, là, par exemple, il y a une étude sur le massif pour connaître le nombre de couples nicheurs d'engoulevent. C'est un oiseau qui chante un peu plutôt crépuscule, quoi. Donc on va
ça ressemble à quoi déjà l'engoulevent ?
L'engoulevent, c'est une sorte de petit, ça a une tête de petit rapace vraiment camouflage, quoi. Plumage difficile à distinguer quand il est au sol. Et il s'envole et il a un bruit vraiment très caractéristique de.
Et donc,
non, je ne peux pas le faire, là, il faudrait vraiment s'entraîner. C'est un bruit de démarrage de moteur de
mobilette ?
De chevaux, enfin, c'est un truc.
D'accord. Mais je croyais que c'était que dans les montagnes, ça. C'est...
Non, on en a. C'est un animal qui vit sur les. Il aime beaucoup les milieux ouverts, les landes, par exemple.
D'accord.
Au sein de la forêt de Fontainebleau, il y a pas mal de milieux ouverts. Alors, paradoxalement, il vit dans le massif, mais pas dans les parties forestières, plutôt les parties ouvertes.
D'accord. Voilà. Donc, dans les mauvais bois, quoi, de Fontainebleau.
Ah, je dirais pas ça, parce que. Souvent, les milieux ouverts sont un peu oubliés. C'est des milieux qui ont un intérêt écologique énorme, peut-être
oui,
plus.
Oui, non, mais
que
les mauvais bois pour des.
Ah oui, d'accord.
De la production.
Oui, bien sûr.
Mais par contre, effectivement, d'un point de vue naturaliste, c'est souvent les plus riches. Mais bon, pour des raisons tout à fait passionnantes. Mais donc, effectivement, alors c'est presque spectaculaire comme espèce, ça.
Ah oui, oui. Et puis, en plus, c'est très intéressant. Et on va lancer une campagne, en fait, pour faire participer les gens. Et qu'il va y avoir des spécialistes. Mais on accepte, effectivement, des gens qui n'y connaissent rien. D'autant plus que c'est une espèce dont le chant est caractéristique. Donc on peut y aller en binôme, en trinôme, et on peut noter, on peut entendre, tout le monde peut participer. Donc
d'accord.
Là, ça fera partie des enquêtes pour lesquelles on va solliciter des gens, quoi.
Ouais. D'accord, donc vous faites aussi des comptages, et c'est vrai que c'est une très bonne occasion de se promener, d'avoir un petit but pour la balade. Et ça, on va sur votre site, on s'inscrit,
oui, c'est
comment ça
ouais.
fonctionne.
Bah alors là, sur notre site,
comment vous prévenez les gens ?
Là, ça va être, on va faire une campagne probablement de sensibilisation particulière pour ce suivi. Mais sinon, on a effectivement beaucoup de sorties nature qui sont proposées par les bénévoles et qui sont sur le site internet. Hein. C'est pas très compliqué, hein, nvl.fr, on tombe dessus.
D'accord.
Et il y a vraiment beaucoup de sorties.
Il suffit juste d'être à nvl.
Voilà, nvanvl. On le dit au ralenti, NVL et Association NVL, ça fonctionne et il y a beaucoup de sorties, il y en a plusieurs par mois. Parfois, il y en a 4 ou 5.
Il y a combien de personnes dans ces sorties
Alors, en fait, ça dépend du thème. Il y a des sorties avec inscription, il y en a sans inscription, donc ça peut pas mal varier. On peut avoir 20, 25, 30. On a certains animateurs un petit peu stars hein, qui font venir du monde hein, sur les plantes sauvages comestibles. Je sais pas, François Thévenon, par exemple, il est quand même un peu connu dans la région. Et puis, parfois, par respect pour les animaux, on est aussi obligé d'avoir des limitations.
Oui.
Et puis, on fait aussi des chantiers. Il y a des chantiers d'entretien. Donc là, on ne peut pas forcément venir à 70 si le milieu ne le permet pas. Quoi. Voilà.
Oui, en tout cas, effectivement, ça peut être très... Donc, si on ne sait pas quoi faire, son après-midi, un samedi...
Ah oui, tout à fait.
Voilà.
Voilà, le samedi 22, il y a un chantier qui arrive. Vous pouvez, si encore de la place, essayer de vous inscrire.
D'accord. Bon, on me fait signe que ça va bientôt... Il va falloir accélérer parce que ça va bientôt être la fin. Donc, je renouvelle nos remerciements à l'équipe technique, hein, Armand Gury, Damien Gissa, Matin Jalali, Sepharem Fami. Bon, tout ça aussi pour vous dire quand même que la semaine prochaine, désolé pour le débat, les amis, on continuera ça au café tout à l'heure. Tout aussi pour vous dire que la semaine prochaine, ce sera quand même notre émission spéciale Mayotte. On l'avait programmée et annoncée les quelques jours après Chido et on avait dit qu'on ferait une émission spéciale 60 jours après Chido. Eh bien, 60 jours après Chido, bon, on y sera la semaine prochaine, le 12 février. Donc, on aura différents invités. On devrait avoir des Maorais de Paris qui travaillent avec des gens de l'équipe de la régie. On devrait aussi avoir une liaison avec la radio Cavesi de Mayotte. On devrait aussi avoir des ONG qui viendront présenter des opérations comme par exemple il y a eu Una Gaïa qui présente Solidarité, qui présentera l'opération 1000 fontaines pour Mayotte, et puis les libres géographes qui parleront du projet d'Atlas pour faire connaître Mayotte aux autres Français, c'est-à-dire nous, à la métropole. Et puis écoutez, je vous remercie tous. Alors je vais reciter les noms des associations. Guillaume, naturaliste du Loing et de Fontainebleau. Mes fiches, j'ai perdu. Nicolas de Forum et Projet des Boucles de Seine. Nature et Société avec Luc Abadi à Créteil. Nature au cœur dans les Yvelines avec Christophe. Eh bien, je crois qu'on est dans le tempo. C'est peut-être la première fois, les gars, non ? Applaudissez-nous quand même. Merci. Allez, à la semaine prochaine. Merci à tous. We'll be right back.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.